Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Du 13 au 20 mars prochain, il y aura donc la semaine de la langue française et comme nous le savons tous, l'enjeu est de taille avec 220 millions de francophones dans le monde et 116 millions d'apprenants, donc de personnes apprenant le français. L'enjeu est d'autant plus important que, comme nous le savons tous, il y a une prédominance de l'anglo-américain qui laisse à supposer qu'effectivement ce débat pour la France et pour la francophonie est important. Donc nous recevons Xavier Darcos. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien placé pour nous éclairer sur ces différents sujets, considérant que vous êtes devenu tout récemment le nouveau président de l'Institut français, après avoir exercé différentes responsabilités ministérielles, et en particulier au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez été aussi ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, sans oublier votre poste de ministre délégué à l'enseignement. Il faut rajouter, pour être bien précis dans ce portrait, que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un fin lettré, ce qui n'est pas toujours le cas dans la classe politique française. Vous êtes agrégé, docteur en études latines et membre de l'Institut, et depuis octobre 2010, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc vous êtes pédagogue surtout, pour avoir dirigé de nombreux manuels scolaires chez Hachette, latiniste, spécialiste Ovide et Tacite, et je recommande à ceux qui voudraient vous lire donc ce livre « Ovide et la mort » qui vient de paraître en 2009 au PUF, amoureux de la poésie française. Vous venez de faire paraître au début de l'année 2011 donc cette anthologie historique de la poésie française, sans oublier vos travaux sur Mérimée. Alors première question, est-ce que cette promotion de la langue française et de la culture française dont vous êtes désormais en charge, est-ce que cette promotion-là est un combat d'arrière-garde? Si on considère effectivement le développement de plus en plus important de la culture anglo-américaine d'une part, et est-ce qu'on peut dire, parce que vous le citez dans votre anthologie de la poésie française, que la France est encore, je cite Joachim du Bellay, mère des arts, des armes et des lois?
Alors d'abord, je crois que cette semaine est importante. C'est l'occasion de parler de notre langue et de faire un tour des actions qui sont conduites. Mais ce n'est qu'une vitrine. La question de la langue française, sa présence dans le monde, est une question qui relève en fait du pragmatisme, de l'action concrète, de l'action continue. Et donc, c'est plutôt une question de main-d'œuvre, je dirais presque, que de théorisation. Et sur ce sujet, on voit bien qu'il y a, je dirais, un regard contrasté, ou en tous les cas, qu'il y a deux approches possibles. La première, que vous avez d'ailleurs évoquée vous-même, Damien Leguet, dans votre présentation, qui est l'américanisation des cultures et des esprits, et qui passe évidemment par l'anglo-américain, cette sorte de langue qui est parlée maintenant par tout le monde et partout, et qui fait qu'on pourrait avoir le sentiment que le français, comme langue d'échange, régresse. Et puis tout à l'inverse, dire que, certes, aujourd'hui, il y a une sorte de langage commun, d'espéranto universel, qui est l'anglo-américain, mais comme moyen de communication rapide, et que, au fond, tout le monde demande, à côté de cette langue commune, demande la sauvegarde de langues, de culture et d'histoire. La revendication de ceux qui défendent la francophonie rejoint celle de ceux qui défendent l'italien, l'espagnol ou d'autres langues. C'est un fait commun. Et lorsqu'on regarde même en Europe, on voit à quel point il y a une volonté de sauvegarder des langues qui sont parlées par des minorités, le hongrois, le slovène. On voit que partout, au fond, tout le monde se dit « il faut à côté de cette langue, bon, que tout le monde va parler, parlons-la, peu importe, on l'apprendra et puis on n'en parlera plus. » Il faut à côté de cela sauvegarder des langues qui portent une identité, un patrimoine, un savoir, un passé. Alors à ce moment-là, le français est évidemment presque une langue modèle. Et plutôt que d'entrer dans des nostalgies que je comprends, que je partage, continuer à être convaincu qu'il y a un désir de français, un désir de langue française. Je dirais que l'anglais vient à vous, on va vers le français. Et que du coup, il y a une sorte de militantisme de ceux qui veulent venir vers notre langue qu'il faut partout constater et soutenir. Et d'ailleurs, vous avez cité des chiffres qui ne sont pas négligeables lorsque vous citez les chiffres des francophones, et il faut ajouter qu'ils sont en augmentation. Le nombre d'apprenants, comme on dit aujourd'hui, dans un terme qui n'est pas très élégant, mais que tout le monde comprend, le nombre de gens qui veulent apprendre le français est en progression constante. Le nombre de professeurs de français dans le monde est très très élevé. La Fédération internationale des professeurs de français est une nébuleuse d'acteurs extrêmement actifs, extrêmement passionnés. Et la langue française est parlée sur tous les continents.
Alors, on a l'impression, à vous entendre, qu'il y a deux effets de la mondialisation. Un, une mondialisation, effectivement, où tout le monde parle la même langue parce que c'est la langue de tous. Et deuxième chose, la langue de chacun. Le deuxième effet serait de vouloir lutter, d'une certaine façon, contre cette mondialisation du cinéma, des langues, etc., pour se réancrer sur des identités particulières dont la langue peut faire partie. Est-ce que vous sentez que ce contre-coup d'une mondialisation générale, anonyme, qui met un peu tout le monde dans le même océan de l'indifférence anglo-saxonne, a un effet réel sur le nombre des francophones d'une part et le nombre des apprenants dont vous parlez?
Je crois que c'est un contre-feu récent que vous venez parfaitement de résumer, mais perceptible déjà. Et que les intellectuels, mais pas seulement, les esprits qui s'intéressent aux choses de l'esprit et de la culture, ont déjà entamé ces contre-feux. Évidemment, je n'en ai que des preuves pour l'instant anecdotiques, mais je reviens d'Afrique, j'ai passé 4 jours en Afrique, je suis rentré hier de Ouagadougou, j'étais extrêmement frappé de voir comment dans cette Afrique de l'Ouest, ou cette Afrique subsaharienne, l'accroche à la culture française est un moyen de compenser l'omniprésence aujourd'hui des paraboles américaines, la présence des évangélistes américains partout, la crainte d'une renonciation à des liens très privilégiés entre la France et ses pays. Je pense par exemple à un pays comme la Guinée équatoriale, où je me suis rendu déjà plusieurs fois, où l'on voit un pays qui était hispanophone, qui a choisi d'être francophone. Est-ce que les Français savent ça ? Qu'il y a aujourd'hui un pays en Afrique qui choisit la francophonie parce qu'il considère que ses liens avec le territoire, avec la sous-région dans laquelle il s'inscrit, la Guinée équatoriale, exige que l'on se tourne vers le français. Donc je sens cela. Évidemment, il faudra affiner sans aucun doute notre analyse, il faudra le vérifier, mais je sens que le contre-feu est déjà commencé. Et au fond, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons bien maintenant que chacun a deux cultures, la culture américaine et la sienne, mais je dis bien qu'il a aussi la sienne, et que la googalisation des esprits n'a pas complètement fonctionné.
Deux choses. La première, c'est que votre prédécesseur, enfin, pour autant que vous en ayez un dans les nouvelles responsabilités qui sont les vôtres, donc Olivier Pauvoy-Larvor, semble beaucoup plus pessimiste que vous quant à ce rebond ou quant à cette place nouvelle de la France, première chose. Et deuxièmement, est-ce que vous avez l'impression, si on passe de la langue française à la culture française, que les intellectuels français, que la pensée française, qui effectivement, excusez-moi de faire un peu de nostalgie, mais enfin dans les années 30 ou les années 40, avait une importance considérable, en a encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des intellectuels qui peuvent se faire entendre au niveau mondial?
Deux questions différentes. La première, la thèse d'Olivier Pauvoy-Larvor dans son Bug Made in France. Ce qu'il dit, c'est que, comme les vecteurs de la culture sont aujourd'hui américains, Google, Facebook, que sais-je, puisque tout est sur le network américain, qu'au fond, les instruments ne sont pas seulement des truchements, mais ils construisent aussi, en quelque sorte, les savoirs qui sont transmis ou véhiculés.
Il y a une forme d'idéologie technologique.
Il y a une idéologie technologique, ce n'est pas complètement faux. C'est vrai que la numérisation, ça entraîne aussi des comportements de créateurs ou d'écrivains différents de ce que pouvait être l'écriture avant la numérisation. Enfin, en même temps, je crois que cette confusion, je l'ai dit d'ailleurs à Olivier Pauvoy-Larvor, il me semble que cette confusion entre les moyens de transmission et les contenus est sans doute un peu excessive et qu'on peut imaginer qu'à l'intérieur même de cette dominante américaine, on puisse défendre nos valeurs. Et un autre aspect que soutient Olivier Pauvoy-Larvor, c'est qu'il y a un recul des moyens que nous consacrons à défendre notre culture face à une puissance de feu considérable de ces grandes entreprises internationales américaines de la communication et qu'en conséquence, nous sommes un peu faibles, fragilisés, inaudibles et que petit à petit, nous disparaîtrons parce que nous n'avons pas les moyens économiques de la lutte. Là aussi, je crois que l'économie, c'est une chose, sans aucun doute, la puissance économique compte beaucoup, mais qu'il y a des petites lueurs, il y a des moyens de se faire entendre qui ne sont pas simplement quantitatifs. L'autre question que vous posez est une question bien posée, je dois le dire, qui est, est-ce que nous avons encore des intellectuels qui d'abord désirent être entendus et être présents dans le monde entier? Et quels sont-ils? Ce que l'on constate en tout cas lorsque l'on voyage, en particulier aux États-Unis, où je me suis rendu encore très récemment, c'est que quand on parle de la pensée française, la référence reste relativement ancienne. Beaucoup d'universités américaines citent parmi les intellectuels d'aujourd'hui en France Deleuze, Foucault, Derrida, voire Sartre. Alors, on ne dit pas que ces gens soient absolument démodés, mais enfin, ils sont tous morts. Et là, on renvoie quand même un mode de pensée des années 70, qui est une pensée très liée à la déconstruction, à une forme de réflexion sur le structuralisme, à une réflexion sur le pouvoir, qui aujourd'hui n'est pas complètement adaptée aux problématiques du début du XXIe siècle, quelle que soit leur immense qualité. Je pense en particulier aux théories de Bourdieu sur la reproduction. On montrera aujourd'hui que, évidemment, ils ont un peu de plomb dans l'aile, me semble-t-il. Mais en tous les cas, les gens croient cela. Est-ce que nous avons des figures qui se substituent à celles-ci, et quelles sont-elles et sont-elles connues? Mais je reconnais que nous avons un peu de mal à les trouver. Et que voilà pourquoi l'une des... Non pas que nous n'ayons pas des intellectuels, mais que, est-ce qu'ils ont déjà franchi un degré de notoriété tel? Voilà pourquoi l'une des missions de l'Institut français que je préside est d'être porteur du débat d'idées, d'aider justement la pensée française à se faire connaître. Quand on défend la culture, quand on diffuse la culture, on diffuse aussi des valeurs. On parle de gouvernance, on parle de développement, on parle de relations humaines, on parle de politique, on parle de relations avec le temps et avec l'espace. Ce sont des questions qui, évidemment, relèvent du savoir, de la culture, et pas seulement de, je dirais, ce sont des valeurs intellectuelles. Et donc, l'Institut français aura pour mission d'aider à ces promotions.
Venons-y justement à l'Institut français. Enfin, je précise que la French Theory dont vous avez parlé a été incarnée par des intellectuels qui ont tous enseigné aux États-Unis à ce moment-là et qui effectivement ont produit là-bas des disciples qui maintenant reviennent d'une autre manière sur le débat
intellectuel. Juste peut-être devrais-je dire tout de même, en ce qui concerne l'intérêt pour la littérature française, on a aux États-Unis encore une très très grande vivacité. Je pense par exemple le rôle que joue un certain nombre de grands universitaires, par exemple Antoine Compagnon est très fréquemment là-bas, Marc Fumaroli y a enseigné très longtemps. Il y a un grand intérêt pour notre littérature, en tout cas. Ce n'est pas forcément la même chose exactement que le débat d'idées ou que les sciences humaines, mais enfin, ça le côtoie ou ça le frôle, et c'est un moyen de notre influence.
Alors l'Institut français donc, que vous dirigez, qui est chargé donc, du développement et de la promotion de la culture française à l'étranger, contrôle donc 150 établissements culturels français à l'étranger, et il y a, si j'ai bien compris, 800 alliances françaises. Alors, il semble qu'un rapport récent du Sénat critique les moyens, le caractère un peu éclaté des budgets. Est-ce que vous avez, vous, avec cet Institut français, l'idée de répondre à cette inquiétude-là, en particulier exprimée par les sénateurs, et quels sont les moyens qui sont les vôtres pour, effectivement, déployer, comme on le dit en termes militaires, enfin, déployer à l'extérieur cette promotion de la culture et de la langue française?
Alors, vous avez raison, l'Institut français, en tous les cas, a été créé pour répondre à une longue attente. Il y a très longtemps que plusieurs rapports ont été établis, depuis le livre blanc qui avait été fait dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, pour montrer que la France n'avait pas une agence culturelle comparable à ce que pouvaient avoir les Anglais avec le British Council ou les Allemands avec le Goethe-Institut. Et donc, il fallait créer un grand opérateur comparable. Et dans les inquiétudes qui se sont manifestées dans ces dernières années, vous avez cité le rapport du Sénat, et en effet c'est un rapport très, très sévère, il y avait cette idée qu'il y avait trop grande dispersion, qu'il n'y avait pas d'unité d'action, pas de lisibilité, bon. Et donc il fallait à tout prix unifier tout cela. L'Institut français, voulu par Bernard Kouchner et soutenu par ses successeurs, devrait répondre à cette attente de trois manières. D'abord, en créant une unicité. Unicité d'image, unicité de logo, unicité de stratégie, unicité de formation des personnes, puisque l'Institut aura cette compétence pour former tous ceux qui agissent à l'étranger. Bref, faire en sorte qu'il y ait une seule et même action stimulée et encadrée par l'Institut français. Institut français qui, d'ailleurs, de ce point de vue, n'a qu'une tutelle qui est le Quai d'Orsay. C'est-à-dire qui s'inscrit comme opérateur au service de la politique diplomatique française. Donc, unicité. Deuxième vertu, me semble-t-il, deuxième utilité de l'Institut français, c'est qu'a été sauvegardé son budget dans un contexte sur lequel je n'insisterai pas, mais que tout le monde sait, qui est un contexte plutôt au contraire de recul et d'allègement.
De quel montant est-il ?
L'Institut français dispose d'un budget de 45 millions d'euros. Pour faire une comparaison, la Culture France, qui était l'élément le plus visiblement comparable, qui a d'ailleurs été intégré dans l'Institut français, Culture France était moins de la moitié de ça, c'était 21 millions d'euros. Donc on peut dire qu'il y a eu la volonté de l'État de faire en sorte que l'Institut français dispose de moyens convenables. Je parle de 45 millions d'euros et je n'évoque pas les appels d'offres que lance Culture France auprès de l'ensemble des acteurs qui sont dans le monde, qui sont des milliers, qui sont près de 9000. Et qui répondent à des appels d'offres et qui ensuite trouvent des financements soit à l'intérieur même des réseaux du ministère des Affaires étrangères européennes, soit en mobilisant des crédits autrement. Là, lorsqu'on parle des appels d'offres, on n'est plus à 45 millions d'euros, mais il faut y ajouter plus de 160 millions d'euros. Donc on est quand même dans des chiffres qui ressemblent à quelque chose. Et puis, le troisième point qui est très important de l'Institut français, la troisième vertu, c'est que la loi sur l'action extérieure de l'État, qui a été votée le 27 juillet dernier, stipule qu'il faut aller vers la création d'un unique réseau de tous les instituts culturels français dans le monde. Non seulement ils doivent s'appeler tous instituts français, mais ils doivent devenir un jour des sortes de succursales de cet institut unique qui serait à Paris. Alors c'est très compliqué à faire, il n'est pas certain que ce soit possible même, parce que dans beaucoup de ces instituts, dans les postes, on trouve des contrats locaux, on trouve des situations tout à fait sui generis en fonction du pays, donc tout ça est assez compliqué à faire, mais c'est quand même la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est dire, il y aura une maison mère, l'Institut français, et il y aura dans tous les pays des instituts français qui seront en quelque sorte rattachés directement à cette maison mère. Et nous l'expérimentons dès le début de l'année prochaine, nous sommes en train de mettre les choses en place dans 13 pays très différents pour voir si ce rattachement fonctionne. Moi, j'ai toute espérance que ce rattachement réussira et que nous disposerons dans 3-5 ans donc, d'un seul et unique réseau culturel dans le monde avec une seule tête de pont. Ce sera quand même un outil très efficace.
Alors vous avez indiqué deux choses. La première, c'est que vous êtes effectivement rattaché au ministère des Affaires étrangères et vous aviez indiqué que cet institut français devait être, d'une certaine façon, la voix de la France à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on est la voix de la France à l'étranger quand, effectivement, comme vous l'avez dit juste avant, on n'a pas forcément les intellectuels qui existent pour promouvoir cette voix de la France. Première question. Et deuxième question, vous avez dit qu'il fallait sortir de la logique d'offre culturelle. Donc, comment est-ce qu'on sort de l'offre culturelle, d'une part ? Et deuxièmement, enfin, excusez-moi d'avoir de vous poser deux questions comme ça, mais... Et deuxième chose, comment est-ce qu'on fait entendre la voix de la France quand la France, d'une part, n'a pas forcément les intellectuels, comme on le disait, et deuxièmement, comme vous le savez, dans le climat intellectuel français, ne s'aime pas forcément beaucoup ?
C'est votre chute qui est évidemment la chose la plus importante. Sur la voix de la France, il me semble que c'est précisément parce qu'il est très difficile, à partir, je dirais, d'un établissement public comme l'Institut français, de dire « voici ce qu'est la culture française ». Ça me paraît impossible. Il me semble qu'il est tout à fait souhaitable que nous dépendions, que l'Institut français s'inscrive dans une dépendance, une tutelle unique du Quai d'Orsay. Parce qu'à défaut de savoir ce qu'est la culture française, nous savons ce qu'est la diplomatie française. Nous savons où nous voulons agir, nous savons dans quel territoire. Le président de la République l'a rappelé encore récemment, l'Union pour la Méditerranée, par exemple, est un enjeu majeur. Les pays émergents, les nouveaux entrants dans l'Union européenne, l'Amérique du Sud. Donc, une fois qu'on connaît les lieux et les projets de la diplomatie française, on voit mieux comment l'action culturelle peut se dessiner et se projeter. Par exemple, lorsqu'on parle de l'Union européenne et de la Méditerranée, on voit très bien, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le Maghreb, on voit très bien que ce sont des liens culturels qui feront aussi renouer, des liens de compréhension, et même plus que culturels, je dirais presque des liens de confiance mutuelle qui feront relier, et nous ne le ferons pas simplement en envoyant des diplomates ou en envoyant des chefs d'entreprise. Nous le ferons aussi en renouant des liens avec les étudiants, avec les intellectuels, avec les artistes de ces pays. Et donc, il faudra recommencer par la culture, comme on avait dit pour l'Europe, vous vous souvenez. Et donc, moi je crois que l'Institut français n'a pas vocation à être la voix de la France, d'ailleurs ce serait une très grande prétention, mais en tous les cas, il a la prétention d'être un instrument d'influence par la culture au service de la politique diplomatique de la France. Et du coup, la deuxième question que vous posiez sur l'offre culturelle tombe aussi sous le sens. Bien sûr, il est utile de faire voyager nos écrivains, nos poètes, nos dessinateurs, nos architectes, nos créateurs, nos peintres, bien sûr, c'est nos cinéastes, tout cela est tout à fait utile. Mais d'abord, comment les choisit-on ? Sur quels critères ? Comment fait-on rentrer les nouveaux ? Bon, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et cette offre artistique doit continuer. Mais elle ne saurait en elle-même, quelque légitime que seraient les choix que l'on ferait des artistes à faire tourner dans le monde, elle ne saurait à elle-même résumer l'action culturelle de la France. L'action culturelle de la France n'est pas une juxtaposition d'individualité, c'est un projet. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les valeurs que porte la culture, la réflexion par exemple sur qu'est-ce que la gouvernance mondiale, qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui, qu'est-ce que notre rapport au développement, notre rapport à l'environnement, ce sont des questions hautement culturelles qui ne peuvent pas se traiter simplement par une myriade d'artistes. Et donc l'Institut français voudrait, sans renoncer à l'offre culturelle évidemment, voudrait essayer de définir des stratégies à caractère intellectuel et culturel qui puissent venir soutenir et confirmer les stratégies diplomatiques de la France.
Alors sur ma dernière petite question, excusez-moi parce que j'en avais posé beaucoup en même temps, mais est-ce que effectivement il est facile de promouvoir la culture française, la culture de la France, quand effectivement, comme on le constate aujourd'hui dans les débats intellectuels, la France elle-même ne semble pas s'aimer beaucoup?
Oui, je vous l'ai dit tout de suite, c'est la question vache. C'est la question qui tue. Évidemment, vous avez mille fois raison, vous touchez au cœur du sujet qui me préoccupe depuis longtemps, je dois dire, en tant qu'individu, en tant que responsable politique, et surtout quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. J'étais très frappé par cette espèce d'autodestruction quand même que l'on voit se dessiner chez des gens qui devaient être les vecteurs de l'intelligence, qui croient souvent que c'est pour des raisons matérielles que les choses vont mal, mais non. C'est parce qu'eux-mêmes ne croient plus à leur mission, ou en doute, ou parce qu'ils mélangent les sujets, parfois, bon, enfin bref. Il faut, en tous les cas, que la France croie à son propre rayonnement. Elle ne le croit plus. Un sondage récent que j'ai lu la semaine dernière, qui avait été fait par Canal+, auprès des Français, sur la conscience qu'ils ont de l'influence de la France, est absolument désespérant, de ce point de vue-là. L'influence culturelle, j'entends. Au fond, nous sommes dans l'ordre de... Il doit y avoir 5% de Français, quelque chose comme ça, je n'ai pas les chiffres ici, mais c'est dans cet ordre-là qu'ils croient que notre influence progresse. Qui veut dire qu'il y en a 95 qui pensent le contraire. C'est un sujet majeur auquel je n'ai évidemment pas de réponse. Il faut que nous retrouvions confiance dans nos valeurs, dans notre langue, dans notre mode de pensée. Nous l'avons beaucoup manifesté dans des forums internationaux. La France a été, par exemple, extrêmement active lors de l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et elle a été reconnue, la France, comme le héros, le porte-parole, je veux dire héros, H-E-R-A-U-T, de beaucoup de minorités linguistiques ou culturelles. Et elle a contribué à faire adopter cette charte. Donc, le fait même que nous soyons aujourd'hui dans une situation plus fragile que nous n'étions naguère, nous rapproche d'une multitude de minorités culturelles et linguistiques qui attendent beaucoup de nous. Déjà, si nous avions conscience de cela, ce serait énorme. Mais nous sommes peut-être un peu blasés, même vis-à-vis des questions européennes. Je me souviens, lors de la campagne sur le référendum qui a été perdu, comme vous savez, sur le référendum européen, moi j'avais pris la décision, dans les réunions publiques que je faisais, d'amener toujours avec moi une personnalité venue des pays de l'Est, de naguère des pays de l'Est, pour leur faire dire devant des Français blasés, ce que avait représenté pour eux l'attente de l'Europe, l'attente d'une capacité à se dégager, d'uniformisation soviétique, la volonté de la différence. Ces grands intellectuels qui d'ailleurs souvent ont pris ensuite des responsabilités politiques dans leur pays, hein, comme Vaclav Havel ou d'autres.
Ou Kundera aussi, enfin,
qui
n'a pas de responsabilité, mais qui effectivement...
Oui, mais enfin, qui s'est beaucoup fait entendre. Et je venais pour qu'ils entendent ça, que la France cesse de croire qu'elle n'a pas un rôle à jouer, que la lueur qui vient de notre culture et de notre langue depuis toujours est un passé révolu. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai si on veut se comparer avec la machine économique américaine ou avec la puissance de feu de la fabrique du monde qui est devenue la Chine. Mais ce n'est pas vrai si l'on parle de tous ceux qui, de près ou de loin, s'attachent à des valeurs humanistes, s'intéressent à des différences, s'intéressent à des questions d'identité, s'intéressent aux questions du destin, s'intéressent aux questions qui touchent à l'homme. Là, vraiment, la France a encore quelque chose à dire. Il faut le répéter à nos compatriotes.
Et donc, si j'ai bien compris, c'est l'objet, effectivement, ou l'idée de votre institut français qui regroupe tous ces moyens-là et qui serait susceptible de promouvoir à l'extérieur ce que les Français, sans doute, eux-mêmes ne savent pas d'eux-mêmes ou ne reconnaissent pas nécessairement.
Oui, parce qu'il y aura en plus un va-et-vient. Non seulement, évidemment, l'Institut français a pris cette compétence sur le débat d'idées que n'avait pas Culture France. Il y avait l'Association pour la promotion de la pensée française, mais qui n'avait peut-être pas le rayonnement qu'il fallait. Donc, nous serons porteurs du débat d'idées, mais aussi, c'est implicite dans votre question, Damien Leguay, mais aussi, nous aurons la venue vers nous des intellectuels des autres pays qui ne souhaitent qu'une chose, c'est nous dire à nous-mêmes qu'on a besoin de nous. Lorsqu'on, je le répète, là, ces quelques jours où je rencontrais des cinéastes africains, ils seraient bien surpris que nous leur disions que nous n'avons plus rien à dire à cette création-là. Ils attendent tout de nous. Et d'ailleurs, ils tournent très souvent en français. Et donc, il y a un effet de va-et-vient, il y a une espèce de dialogue, de dialectique enrichissante pour les uns et les autres, dont il faut que nous ayons conscience et qu'il faut que nous continuions à faire vivre. Surtout, c'est un enjeu vital.
Mais est-ce que ça veut dire, et ça sera ma dernière question, que votre poste de vigie, c'est-à-dire vous êtes à la frontière entre la France effectivement et le rayonnement de la France à l'étranger, laisse à supposer que vous devez avoir un regard sur ce qui se passe en France, sur deux thèmes en particulier. Un, l'anglo-américanisation de la langue elle-même. Nos amis du Québec ont une vigilance beaucoup plus grande que nous l'avons nous-mêmes à l'égard du français. Donc pour promouvoir la langue à l'étranger, encore faut-il que celle-ci soit maintenu non pas dans une pureté, mais au moins dans un souci de maintenir des éléments de langage qui nous appartiennent en propre. Et deuxième élément de vigilance, la différence entre la France et les États-Unis ne tient-elle pas avant tout, et vous le disiez, non pas une question de moyens, mais de, disons, de religion civile. Il n'y a pas de pays plus chauvin que les Américains eux-mêmes, de plus amoureux qu'eux-mêmes que les États-Unis. Et donc, pour se dire, se raconter, se promouvoir à l'extérieur, encore faut-il s'aimer soi-même suffisamment pour rayonner à l'extérieur. Donc, est-ce que ces deux éléments-là ne sont pas, même si c'est un peu en amont de votre propre responsabilité, des éléments de vigilance sur lesquels vous devez avoir un œil des plus alertés?
Bien sûr, il faut que nous nous aimions nous-mêmes, il faut que nous aimions ce que nous sommes et ce que nous disons, faute de quoi nous aurons bien du mal à persuader les autres qu'il faut y adhérer. Ce que vous dites est évident et vous avez raison de le rappeler. Mais notre défaut de vigilance, que vous compariez par exemple avec l'extrême attention que portent les Québécois à sauvegarder leurs différences, notre défaut de vigilance vient aussi, là encore une fois, de notre trop grande indifférence aux enjeux du monde. Je le répète, il faudrait faire voyager des responsables français, il faudrait faire voyager des gens qui ont des responsabilités culturelles, intellectuelles ou universitaires. Il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'ils voient dans quel militantisme se trouve notre pays par rapport à notre narcissisme franco-français. On est absolument désespéré dès que l'on voyage un peu. Je le fais tout le temps, c'est pour moi à nouveau. Je suis très très souvent hors de France. Et lorsqu'on vient en France, de voir quels sont les débats qui agitent la politique française, qui sont vraiment des histoires très étriquées, qui n'intéressent personne, qui ne touchent aucun enjeu mondial, qui ne concernent pas l'avenir, qui sont des histoires clochemerlesques. Et donc il faut que nous nous aimions, oui, il faut que nous aimions. Mais que nous aimions aussi ce qui nous porte hors de nous, ce qui nous tire hors de nous, ce qui nous dépasse au fond en nous-mêmes. Et cette exigence-là, c'est une exigence absolument majeure, je dirais aujourd'hui, des responsables politiques et intellectuels de la France, que peut-être ne voient-ils pas assez. Cessons de nous enfermer dans des querelles vernaculaires pour nous poser la question de ce que nous deviendrons et de ce que nous pouvons faire dans cet immense monde mouvant et qui change tant. La semaine dernière, avait lieu sous la coupole un débat sur l'éducation et Michel Serres expliquait ça extraordinairement en disant ce qui est aujourd'hui, un enfant d'aujourd'hui n'a rien à voir avec un enfant d'il y a 30 ans, ni dans sa durée de vie, ni dans ses relations à la généalogie, au temps, à l'environnement social, à la culture, à l'enseignement, évidemment, puisqu'il trouvera sur Internet beaucoup plus que ce qu'il y a dans la tête d'un enseignant. Et il disait, au fond, que nous n'avons pas intégré cela. Donc, il y a un travail en interne, mais là, ce n'est pas l'Institut français, a fortiori son pauvre président, qui pourront le faire seul. C'est un combat qui renvoie, en particulier, à la responsabilité de tous ceux qui ont devant eux des jeunes, et des jeunes générations, des étudiants et des élèves. Et je crois que c'est un rôle absolument majeur. Il faut à tout prix que cette conscience existe. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que vous disiez dans la deuxième partie de votre question, et qui était aussi quand même d'ailleurs une analyse plus qu'une question, sur le fait que nous n'avons pas cette religion civile des Américains. Lorsqu'on va dans une école américaine, moi j'entends toujours dire beaucoup de mal du système américain sur le plan éducatif, et c'est vrai que pendant longtemps il a été très mauvais, mais ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Moi je me suis rendu dans des États du Sud des États-Unis, en Louisiane par exemple, ou dans le Bronx, ou dans la banlieue de Chicago. Attendez, mais on voit des écoles qui reconstituent aujourd'hui une énergie formidable qu'elles captent auprès de jeunesses qui sont des jeunesses qui ressemblent beaucoup à celles de nos banlieues, des jeunesses qui sont complètement déstructurés intellectuellement, peu savantes, peu intéressées par les choses à la culture, mais qui sont gagnées par l'adhésion à la nation, avec un système compétitif, avec un système de récompense, avec un lever de drapeau tous les matins, avec un attachement extraordinaire à la nation. Moi, je ne dis pas qu'il faille installer un lever de drapeau, lever aux couleurs dans nos écoles. Mais en tout cas, il y a aux États-Unis cette force d'adhésion à la collectivité, alors que nous avons le sentiment, lorsque nous regardons autour de nous, notamment lorsqu'on parle des problèmes de l'immigration et des banlieues, que c'est tout à fait l'inverse, qu'on a le sentiment que ce qui faisait la nation se déchire, et que les territoires perdus de la République, ce n'est pas une légende, ça existe autour de nous. Et donc, là encore une fois, nous dépassons très largement la question de l'Institut français, du rayonnement de la France dans le monde sur le plan culturel, nous touchons à des questions de structure sociale, de fondement même de notre culture partagée, qui doivent être entièrement, à mes yeux, repris en main. Il y a là un enjeu central, alors culturel au sens presque allemand, des cultures, qui refait en fait le destin partagé, qui refait la nation.
Mais écoutez, monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je vois que même si effectivement vous êtes homme politique, vous n'en êtes pas moins lucide, et les éléments de discussion que nous avons eus permettra à nos auditeurs de se rendre compte. Je vois que vous vous rendez bien compte effectivement de tous les défis qui sont effectivement les vôtres, et on ne peut que souhaiter, dans le cadre de cette semaine de la francophonie. Bon vent à cet institut français que vous allez présider, et en souhaitant que tous les défis que nous avons essayé de soulever puissent être relevés par vous et par tous ceux qui dépendent de votre action culturelle et linguistique à l'étranger, pour que la France se projette d'une façon meilleure, disons, que sans doute ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.